Cube Radio.
Les favoris entrent dans la danse. Place aux Chiefs et aux Eagles. Les premiers seront les derniers. Après avoir été la risée de la NFL, la NFC East est de retour au sommet. Les Bills, ils sont bons, mais est-ce qu'ils ont ce qu'il faut pour se rendre jusqu'au bout? Sortie décevante pour Tom Brady et Justin Herbert. Quelle sera la suite pour ceux pour qui le parcours est terminé? Tout cela et bien plus dans ce nouvel épisode de La Zone Payante. Bonjour à tous, mon nom est Jean-Nicolas Gagné, heureux de vous retrouver cette semaine. Je suis en compagnie de l'expert en football au Journal de Montréal et de Québec, fraîchement revenu de Buffalo, Stéphane Cadorette. Salut Steph!
Salut Jean-Nic, hey, on n'a pas pu en parler la semaine passée parce que je n'avais pas à ce moment-là. J'étais à Buffalo, j'étais en attente d'accréditation, on aurait aimé ça le dire au monde, c'était pas une cachette. Mais coudonc, je suis parti à la dernière minute, puis ben du fun là-bas.
Bon, alors, nous, on va passer un petit peu à travers ce qui s'en vient cette semaine, mais on peut faire un petit retour, si tu veux bien, Steph, sur la semaine passée, que t'étais à Buffalo, t'as vu le match entre les Bills et les Dolphins. Moi, en fait, j'étais si heureux là, de savoir que j'allais pas avoir de match, que les Bills allaient torcher les Dolphins, que j'allais pouvoir comme faire d'autres choses, pas m'en faire. Mais les maudits Bills, ils ont même pas livré. Ils ont donné un match, puis ils m'ont donné de l'espoir.
C'est ça qui est le pire. Hey, tu m'as volé les mots, j'allais dire. Ils ont été chiens, ils t'ont donné de l'espoir. C'est ça qui
est
arrivé.
Terrible. C'est terrible.
Et, écoute, j'avais l'impression...
encore plus qu'avant.
J'avais l'impression que Josh Allen, il jouait une game, tu sais, dans sa cour arrière. Tu sais, quand tu lances des bombes et des bombes et des bombes, quand t'es jeune, tu joues avec tes amis, puis une passe de 6 verges, ça t'intéresse pas, là. C'était ça, c'était bizarre, sur des 3 et 1, des passes de 48 verges dans les airs, puis c'était très mal géré, j'ai trouvé. La gestion de l'horloge des Dolphins a été mauvaise aussi. Tout ça a donné un match un peu bizarre qui a duré à peu près 4 heures. Ça a été plus le fun que prévu côté pointage, ça je te le concède. Là, t'sais, c'est, les deux équipes ont été dedans jusqu'à la fin. Mais honnêtement, drôle de match, drôle de match. Puis les Bills ont convaincu personne, ça c'est sûr. T'sais, une victoire, c'est une victoire. Puis Josh Allen le disait après le match, on a survécu. T'sais, c'est ça l'important en série. Là. Sauf que tu joues contre une équipe, tout le monde parle du fait que c'était les Dolphins et leur troisième corps arrière. Oui, on le sait que Skyler Thompson, ça leur donnait pas grand-chance, mais il y avait pas mal d'autres blessures là, chez les Dolphins. La ligne à l'attaque était complètement déboîtée. La tertiaire, il y avait des blessures aussi. Le jeu au sol était amputé de Raheem Mostert. Tu sais, à un moment donné, là, c'était pas une équipe de grande qualité qui était sur le terrain. Ils se sont battus, donc chapeau. Ça, tu peux pas leur enlever, mais les Bills auraient dû faire beaucoup mieux. Donc, c'est ça. Performance, honnêtement, là, tu sais, quand je suis arrivé dans le vestiaire, on sentait que les gars, c'était pas nécessairement le party, là. C'est, on a gagné.
Ouais.
Tannez-nous pas, on a gagné, on a fait ce qu'il fallait. Mais c'était pas le sentiment que t'as d'une équipe qui a fait son travail, qui a fait ce qu'il fallait, qui a fait ce qu'on attendait d'elle. C'était très, très sobre, je te dirais, là, dans le vestiaire après le match.
OK, puis qu'est-ce que t'as pensé de la performance de tes Vikings? Parce que là, moi, je suis pas le seul à souffrir là, cette semaine. Ouais. Il y a toi aussi là, avec tes mauves. Là. Qu'est-ce qu'on fait?
Je sais pas.
On change tout de sport? Pas.
Jean-Nic, un, on changera pas de sport. Deux, on changera pas d'équipe. Mais on a le droit, sur le coup, d'être découragé un peu. Tu sais, c'est toujours la même histoire. Des promesses, puis ça finit.
Je regardais un peu le polo, puis je trouve que c'est beau, un cheval. Puis c'était lancé. Puis peut-être que je pourrais commencer à m'intéresser au polo.
Ben, moi, je pourrais m'intéresser au water polo. Mais écoute, il y a d'autres sports, c'est vrai. Tu fais ce que tu veux, Jean-Nic, t'es libre. Moi, jamais okay. Je vais te retenir. Mais honnêtement, il y a juste une chose, c'est que moi, je ferai pas de podcast sur le polo. Ça, c'est sûr. Mais tu fais ce que tu veux, là.
Ben, je vais me renseigner, je te reviens la semaine prochaine, mais peut-être que je vais conserver mes responsabilités ici aussi.
Mais c'est dur, c'est dur. Honnêtement, c'est dur, là, ouais, écoute, je regarde, moi, les Vikings, une saison de 13 victoires. Tu sais, 13 victoires, là, c'était arrivé en 2017, puis c'était arrivé en 98, la fameuse année de 15-1 des Vikings. Puis à chaque fois, ça finit tout croche. C'est décourageant, puis je veux pas manquer de respect aux fans des Giants. C'est une bonne équipe, mais sans plus. C'est pas une grande équipe de football en ce moment, les Giants. C'est une équipe qui a ce qu'il faut pour causer des surprises, tu sais, qui peut faire un petit bout. Mais là, t'affrontes les Vikings. Il y avait tellement de doutes depuis le début de l'année. C'est comme si ça valide le scepticisme là, de tout le monde, toute l'espèce d'incrédulité ambiante qu'il y avait autour de cette équipe-là a été validée finalement. Puis moi, mes craintes qui se sont avérées, c'était depuis le début de la saison, cette équipe-là a pas de défense. A pas de défense. Les Giants ont punté une fois dans ce match-là. Ils sont pas capables d'arrêter une attaque de milieu de peloton. Là. Donc, tu sais, ils seraient arrivés à un moment donné contre des grosses, grosses attaques, puis ils se seraient fait manger. C'était l'évidence. Cette valeur va avoir du travail à faire de ce côté-là. C'est facile de gueuler contre Kirk Cousins puis son 4e et 8. C'était pas très beau, là, j'en conviens. Mais c'est pas là que le match s'est joué. Tu sais, le match s'est joué bien avant avec une défensive pourrie qui a été une passoire toute l'année, il faut se le dire.
Bon, la semaine passée, là, je t'ai prédit un Black Monday. Je t'ai dit que Staley allait perdre sa job lundi après une défaite pathétique des Chargers. La défaite pathétique est arrivée, mais il est encore là. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que les Chargers voient dans Brandon Staley que je vois pas?
Je vais t'amener quelque chose que peut-être qu'ils voient que nous, on voit pas. Il coûte pas cher. C'est pas une équipe qui a beaucoup d'argent, les Chargers, je te le jure. Là. C'est pas l'équipe que les liquidités leur pissent par les oreilles. Puis, tu mettrais dehors un coach alors que justement, là, t'es le second violon à Los Angeles, puis loin en arrière des Rams, qui ont déjà de la misère à pogner dans leur marché. Je pense qu'il y a ça dans l'équation, veut pas. Ils le diront jamais, là. Il y a jamais un dirigeant des Chargers qui va dire, écoutez, là, on paye Brandon Staley, on n'a pas le goût de le payer dans le vide, comme Cliff Kingsbury qui est parti en Thaïlande, un billet aller sans retour, là. Ils le diront pas, mais il y a ça dans l'équation, je pense. L'autre chose, c'est que les joueurs ont milité en faveur de Brandon Staley, là, tu sais,
ouais,
après
ça,
le match.
Ça, là, mais
moi, il y a quelque chose là-dedans. Est-ce qu'ils sont trop confortables, les joueurs,
ben,
justement?
C'est ça, là. Moi, un coach, là, que les joueurs veulent le garder, là. Oui, OK, ça veut dire que c'est un bon gars, puis qu'ils aiment travailler avec, puis ils sont prêts à y donner un peu de leur temps, puis de leur sang sur le terrain pour gagner, mais des fois, c'est ça aussi, c'est parce que c'est rendu un ami, puis on le veut le garder dans l'entourage, là.
Je pense qu'il faut bien s'entendre avec son coach. On n'est plus en 1920 là, que c'est le grand patron qui fait peur à tout le monde à grand coup de pied dans le derrière. Là. On n'est plus là. Mais c'est pas le cégep non plus. Là. Tu t'en vas pas au salon étudiant t'amuser avec tes chums. Je veux dire, c'est il y a quelque chose de sérieux là-dedans. Faut qu'il y ait une relation de respect, oui. Mais il faut aussi, à quelque part, que le coach ce soit le chef du navire. Puis c'est ça qu'on se demande à Los Angeles avec les Chargers.
OK. Là, tout a été dit sur le match en fin de semaine. Là, une avance de 27-0, puis perdre ce match-là, finalement, là, c'est terrible. Là,
manque de focus, puis manque d'ajustement aussi aux Jaguars en deuxième demi, qui ont joué à peu près tout le temps sans caucus. On dirait que les Chargers se sont pas ajustés. Puis ce qui est bizarre, on a flushé le coordonnateur offensif Joe Brady. Ça, je comprends parce qu'il méritait pas nécessairement de conserver son poste. Mais qui s'occupe de la défensive avec les Chargers? C'est Brandon Staley qui emmène large à ce niveau-là. Là. Donc, il y a quelque part un écope, mais pas l'autre. Il y a des questions à se poser.
Est-ce que Brady revient l'année prochaine? Qu'est-ce que tu vois en ce moment sur les... Moi, je vois pas de signe de retraite, là, mais qui va vouloir de lui, là?
Il a été très émotif à la fin de sa conférence de presse. Je sais pas si t'as vu. Il a même remercié les journalistes. C'est rare qu'on voit ça. Il a remercié les Buccaneers. Il a dit que c'était une excellente organisation.
Ben, c'est clair qu'il ne vient pas chez les Buccaneers. En tout cas, moi, sa conférence de presse, c'est ça le message.
Je pense qu'on peut déduire ça. Puis j'ai l'impression que Brady, écoute, là, son mariage a sauté. En partie, on n'est pas dans le secret des dieux, mais on peut deviner que c'est en partie parce qu'il est incapable de décrocher du football. J'ai de la misère à croire qu'il a fait ça pour une saison. de 8 et 9 avec les Bucks. Tu sais, je pense qu'il y a le goût de continuer. Je pense que la flamme est encore là. Puis, écoute, il y en a qui seront pas d'accord. Peut-être même toi, puis tu peux me donner tes arguments. Mais je pense pas que Brady est fini. Je pense qu'il est pas à son meilleur. Il a déjà été mieux, c'est clair. Mais il est encore capable de jouer aussi bien que pas mal de corps arrière dans cette ligue-là. Moi, je continue de le voir avec les Raiders. C'est une équipe qui a besoin d'un grand coup de marketing, d'un grand coup de souffle nouveau, de culture gagnante aussi. C'est ce qui manque là avec les Raiders. Tu sais, Brady qui serait là pour un an ou deux, ça peut amener cet aspect crédibilité-là. Moi, j'aime ça, puis je trouve qu'avec les Raiders, il y aurait des armes instantanément. Les Davante Adams, Hunter Renfrow, Josh Jacobs, Darren Waller, les lits rapprochés. Il y a une ligne à l'attaque qui est pas piquée des verres. Tu sais, la défense, c'est très ordinaire, ça on le sait. Mais les Raiders, écoute, ce serait un bon mariage de part et d'autre. Je continue de penser que c'est ça qui va arriver.
Écoute, moi, il a lancé combien de fois, Brady? 65 fois?
66 fois. C'est hallucinant.
Il va falloir un jeu au sol. Là. Josh Jacobs, pas sûr qu'il va revenir avec les Raiders, mais quand même, là, il va y falloir un jeu au sol l'année prochaine.
Est-ce que tu penses qu'il est fini, toi, Brady?
Mais je pense plus qu'il peut lancer 65 passes par
t'sais. Ça, c'est trop. Ça, on en convient.
Faut qu'il lance 30. Faut qu'il y ait des jeux. T'sais, il peut pas avoir 30 passes de préparer puis d'improviser 30 autres. Là. Puis là, c'est ça qu'on a eu d'avoir l'impression la semaine passée. Puis d'après moi, c'est pour ça.
Mais Davante Adams est capable de créer beaucoup plus de séparation que Mike Evans à ce stade-ci de sa carrière. Mike Evans, c'est un excellent receveur, mais en ce moment, il crée plus de séparation.
Bon,
c'est dur là, pour Brady. Là.
Rapidement, les Ravens puis les Seahawks, un mot là-dessus. Ils se sont bien battus, mais il y avait plus fort qu'eux en avant.
Ben, les Ravens, c'est surtout le post-mortem qu'il y a à faire. C'est qu'est-ce qui se passe avec Lamar Jackson? Parce qu'en ce moment, on a un gars qui avait au départ un pronostic de retour au jeu dans 3 à 5 semaines. Là, il a raté quoi? 6 matchs ou 7? Il y a des doutes là, dans l'organisation à gauche à droite sur le fait que est-ce qu'il aurait pu revenir au jeu? Là, il aurait peut-être pas été à 100%, mais est-ce qu'il aurait pu jouer en série?
Et Robert Griffin, là, de Third,
il a un bon point. Mais
il était malade, il était blessé. Il était arrêté, là. C'est ça.
Il y a ce que je trouve bizarre au niveau de l'organisation, c'est que personne s'est garoché pour dire écoutez, là, arrêtez ces rumeurs-là. Lamar Jackson n'est pas prêt à revenir au jeu. C'est un soldat. On est derrière lui. On le supporte à 100%.
Mais
John Harbaugh a été très évasif. Sens,
c'est rare, tu sais, qu'il confirme un ou l'autre, là, tu sais.
Ouais, mais j'ai trouvé que Lamar Jackson a parlé de sa blessure par ses réseaux sociaux. L'équipe a été plus évasive. John Harbaugh a été très évasif. Tu sais, c'est pas comme s'il y avait une grande relation d'amour entre les deux en ce moment, on dirait.
Les Seahawks, là, ça devait se finir un jour. Là. Gino n'a pas eu une mauvaise game, mais clairement, the guy is pretty, pretty, pretty good.
Ben écoute, moi, les Seahawks, j'ai rien à dire de négatif sur ce qui s'est passé. Ils ont perdu le match, mais écoute, ils ont donné un match aux Niners pendant quoi, une demi? C'était un bonus d'être en série. C'était inattendu, c'était inespéré. C'est une équipe dont la reconstruction est beaucoup plus vite que prévu. Ils ont deux excellents bloqueurs qui ont repêché au dernier repêchage. Donc, il y a vraiment de quoi qui se construit là-bas. Un très bon porteur de ballon recru. Deux demi de coin de qualité aussi qui ont pris au dernier repêchage. Il y a un excellent jeune noyau. Puis ça va faire ça peut juste aller en s'améliorant. Maintenant, est-ce que Geno Smith peut leur redonner une autre saison comme ça l'an prochain? Il va encore avoir des sceptiques. Là, il est agent libre, donc c'est pas sûr à 100% qu'il revient, mais il a mentionné son intention de revenir, son souhait de revenir. Je pense que les Seahawks peuvent juste continuer d'aller vers le haut.
OK, maintenant, on se tourne vers l'avant. Là, on va en parler au cours de l'émission parce que c'est la grosse fin de semaine. Les 4 matchs importants, les Chiefs et les Eagles là, qui arrivent. Là, les deux équipes favorites, hein, je pense, on peut dire ça, même si les Bills ont certains preneurs au livre qui les mettent gagnants du Super Bowl. On va parler tantôt, mais rapidement, là, est-ce que tu trouves que les deux arrivent dans des bonnes conditions et affrontent des bonnes équipes? On va en parler dans nos prédictions, mais j'aimerais ça t'entendre tout de suite.
Oui, ils arrivent dans des bonnes conditions. Premièrement, c'est l'évidence, là, sont reposés. sont à la maison les deux. Fait que tu sais, t'as pas de meilleure situation que ça. Tu sais, la semaine passée, on en avait parlé, Jean-Nic, là, puis je veux revenir sur une stat parce que récemment, ça a moins été le cas. Mais depuis que le système actuel du seeding, là, du positionnement des équipes par conférence est en place depuis 1976, les équipes qui ont été classées numéro 1, on l'avait dit la semaine passée, 25 Super Bowls sur 48. Donc, il y a là un net avantage. Par contre, dans les dernières années, ça a été moins le cas. Depuis les séries de 2018, les équipes semées numéro 1 dans les séries ont montré une fiche combinée de 7 victoires, 8 défaites, aucune victoire au Super Bowl là, dans les 4 dernières années. Il y a quand même matière à réflexion. Ça veut dire que tu es bien positionné, tu as un avantage clair que tu as été cherché en gagnant des matchs durant la saison, mais que dans les dernières années, ça a été moins payant que dans l'ensemble de l'histoire des séries. Là. Fait que faut pas prendre pour acquis que ces équipes-là arrivent numéro un puis qu'ils vont finir numéro un. Tu sais, il y a de l'opposition en ce moment. Tu regardes Casey dans la conférence américaine. Tu as parlé de Buffalo, mais moi, je suis pas prêt à enterrer Cincinnati là comme ça. Du côté de la nationale, San Francisco, vraiment, qui est une menace sérieuse. Puis la façon que les Cowboys ont joué en fin de semaine...
Yeah, c'était convaincant, ça, c'est
écoute,
sûr.
Je comprends que c'était Tampa, là.
Mais écoute, on va en parler tantôt, Steph. Je te laisse pas t'étendre, là, parce qu'on va en avoir en long et en large à expliquer pour les prédictions. Laissons-nous pour l'instant. On va faire une pause, puis après la pause, ben là, ça va être les questions du public, parce que ça aussi, vous avez été nombreux, là, c'est le moment de l'année où il y a de l'intérêt pour le football. Et on va répondre à vos questions, bougez pas.